Invité de cette deuxième heure des matins du samedi de France Culture, un homme qui fut lieutenant-colonel dans les forces françaises de l'intérieur et président du comité de libération de la Drôme pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, vous avez bien entendu, il fut banquier, il fut chantre et il l'est encore de l'économie sociale et solidaire. Il est président d'honneur du Labo de l'économie sociale et solidaire et de France Active. Et aujourd'hui, à 97 ans, il est coprésident du Conseil national de la Nouvelle Résistance. J'ai le grand plaisir d'accueillir Claude Alfandéry. Bonjour monsieur.
Bonjour Caroline Brouet.
Merci d'être avec nous ce matin. Claude Alfandéry, nous parlerons de ce Conseil national de la Nouvelle Résistance que vous venez de créer tout à l'heure, après 8h30. Mais j'aimerais, pour commencer, qu'on parte du Conseil national de la Résistance lui-même de 1944 et m'adresser à celui qui a connu cette époque comme résistant, qui a traversé le XXe siècle, en reprenant une tribune que vous-même avez signée dans le Nouvel Obs ce début avril, où vous laissiez, dites-vous, ressurgir le souvenir des maquis pour tenter une comparaison avec aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire, Claude Alfandéry, que vous avez l'impression d'être à nouveau en guerre, pour reprendre les mots de notre chef d'État ?
Non, je ne pense pas que nous soyons vraiment en guerre. Je pense que nous sommes dans une situation qui nous oblige à nous conduire comme si nous étions en guerre. Mais nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes en ce moment dans une épidémie extraordinairement difficile et qui crée des désordres épouvantables et des risques mortels. Mais nous ne sommes pas en guerre et nous devons simplement nous rappeler ce que nous avons fait lorsque nous étions dans des risques aussi épouvantables dans cette époque que vous évoquiez tout à l'heure.
Parce que vous dites, Claude Alfandéry, qu'on a toujours l'idée que dans ces maquis de 1943, on se battait tout le temps. Alors qu'en fait, non, on réfléchissait, écrivez-vous, à une vie meilleure. Ça voudrait dire que le maquis, en fait, c'était aussi un laboratoire de citoyenneté.
Oui, écoutez, je crois qu'il faut se rappeler comment tout ça s'est passé. C'était tout de même pendant l'année 1943, ça a été un très grand tournant. Jusque-là, la guerre s'étirait, elle était douloureuse, dangereuse, etc. Et la résistance était multiple, mais tout de même, les choses étaient encore très très morcelées, très. C'était une résistance encore très marginale, très très minoritaire, d'actes, de petits actes dispersés. Et puis l'année 43 était tout de même une année tournant, un grand tournant. D'abord parce que les Alliés remportaient de grandes victoires, le cours de la guerre changeait. En retour, les atrocités étaient encore beaucoup plus abominables. Et puis il s'est passé quelque chose dont je trouve les historiens ne parlent pas assez. C'est le service du travail obligatoire, c'est-à-dire l'Allemagne, avec Vichy qui entérinait, obligeait les gens à venir travailler, tous les actifs, à venir travailler en Allemagne où les défaites en Russie avaient réduit la capacité de travail dans les usines d'armement. Bon, ils n'ont pas voulu, donc c'est plus de quelques milliers de résistants engagés, c'est des centaines de milliers de gens qui refusent d'aller en Allemagne et qui donc sont en quelque sorte obligés d'entrer en résistance. Et comment pouvaient-ils entrer en résistance? Simplement parce que ils cherchaient où aller, puisqu'ils ne pouvaient pas aller en Allemagne et que la police les recherchait. Et donc ils devaient aller dans des maquis. Et donc il y a eu un afflux absolument considérable de gens dans les premiers maquis qui existaient, qui étaient des maquis de résistants purs et durs, et qui sont devenus où sont entrés des gens. D'abord, ils étaient dépaysés, ils venaient de partout, et puis en plus, pour la première fois de leur vie, ils étaient désœuvrés. Et donc, c'est beaucoup de temps à passer. Et puis, beaucoup de choses nouvelles, beaucoup de gens qui ne connaissaient pas, venant d'autres régions, d'autres milieux. Il y a un mixage de population tout à fait formidable. Et puis, comme ils étaient peu armés, les coups de main étaient relativement rares. Et entre les coups de main, il fallait discuter. Et c'est là que se sont nouées des discussions nouvelles, totalement inédites, que les gens ont en quelque sorte appris à discuter, appris à débattre. Et ces débats ont eu une grande importance parce que c'était aussi le moment où se préparait le grand programme du Conseil national de la Résistance. Alors il se préparait autour de grandes têtes pensantes, mais en fait ces grandes têtes pensantes se sont appuyées sur les discussions, sur les débats qui ont eu lieu, où vraiment on a appris à se mettre d'accord, à surmonter des désaccords. Tout ça est assez difficile, assez nouveau, on ne sait pas toujours le faire, mais je pense que le résultat a été tout à fait formidable, et je crois qu'on peut dire que ce qui s'est passé à ce moment-là dans les camps, ce grand mouvement de citoyens, ça a eu des répercussions tout au long des Trente Glorieuses. S'il y a eu les Trente Glorieuses, c'est aussi parce que c'était formé dans les maquis, à travers notamment ces discussions, par cette solidarité naissante, toute une série d'élites, aussi bien des syndicalistes, des coopératives, des membres d'associations, mais aussi des hauts fonctionnaires, de grands dirigeants d'entreprises, toute une série de gens, ils sont nés dans les camps. Voilà, je pense que ça a été très très important de ce point de vue-là, mais aussi d'un autre point de vue que je peux évoquer si vous le voulez bien.
Bien sûr.
Je pense que ça a été très important aussi parce que la résistance, je le disais tout à l'heure, c'était tout de même des actions assez dispersées et c'était des gens très tout à fait désunis. Quand Jean Moulin m'a envoyé dans la Drôme, c'était un spectacle tout à fait désolant. Il y avait plein de mouvements. D'abord, il y avait les gaullistes contre les gaullistes, contre les communistes, et puis à l'intérieur, au sein des gaullistes, il y avait une dizaine de mouvements différents, et puis il y avait des difficultés entre les protestants et les catholiques, entre la Drôme du Sud et la Drôme du Nord. Enfin, on ne s'y retrouvait pas, et on n'arrivait pas à travailler ensemble. Or, le service du travail obligatoire, l'arrivée, l'afflux dans les camps, la nécessité d'organiser des maquis, les organiser, les sécuriser, les ravitailler, tout ça était un projet immense, tout à fait nouveau, et tous ces conflits sont devenus totalement dérisoires par rapport à la nécessité de faire ensemble ce projet. Et ceux qui étaient en conflit permanent, eh bien, je dois dire que à l'automne 1943, il y avait un grand comité de libération regroupant tous les mouvements. Et toutes les catégories de représentants, et il y avait aussi une quinzaine de comités locaux de libération qui étaient aussi l'expression de cette unité. Donc je trouve que ce service du travail obligatoire, quelquefois les ennemis font bien les choses, et en quelque sorte grâce à cela, il y a eu ce formidable mouvement dans les camps, et il y a eu aussi ce formidable cette unité récente, cette solidarité autour de ces nouveaux maquis.
Mais Claude Alfandéry, on entend bien à travers ce que vous dites où commence et où s'arrête la comparaison avec ces années que vous nous racontez là. Peut-être un moment pour tout remettre à plat et tout reconstruire, un grand mouvement de citoyens qui réfléchissent ensemble, nous dites-vous. Mais en 1943-44, on savait à quoi on résistait ou à qui on résistait. Aujourd'hui, on résiste à quoi ou à qui ?
Alors, je crois que vous avez tout à fait raison. Enfin, c'est très très utile de comparer ces deux périodes. Mais en fait, elles sont très 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 différentes. En effet, d'un côté, on avait, entre 1940 et 1944, c'est une longue période qui s'est étirée avec des ennemis très 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 visibles, des ennemis très 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 barbares, des actes de violence, de brutalité, des exécutions, des tortures. On connaissait aussi l'existence des camps de la mort. C'était donc quelque chose d'extraordinairement violent, brutal. Aujourd'hui, c'est très différent. Ce sont des ennemis totalement invisibles. Je crois qu'il y a donc de grandes différences, mais ce qui n'est pas différent, c'est que dans les deux cas, il y a de très très grandes souffrances, des risques mortels. Et puis, en retour de cela, des actes de résistance tout à fait formidables, des lieux de résistance tout à fait formidables. Aujourd'hui, on les connaît, particulièrement pendant cette période de pandémie, les hôpitaux, les centres de soins, mais pas seulement ça. Enfin, tous ces centres d'entraide, d'innovation sociale qui permet à l'ensemble de la population de résister devant ce confinement, ces difficultés économiques. Et hier, alors c'était autre chose, c'était les journaux clandestins, c'était les manifestations interdites, c'était les attentats qui sont devenus au fur et à mesure de plus en plus nombreux, et puis surtout alors en 43, ça a été les maquis dont nous venons de parler. Donc grande différence et grande similitude en même temps, et je pense que ça permet tout de même de la mémoire de cette résistance se projette et donne un sens aux événements que nous traversons en ce moment, et pas seulement en ce moment, disons aux crises qui s'entrelacent depuis 30 ou 40 ans.
Mais justement, sur l'échelle des dangers et des menaces ou des ennemis invisibles dont vous parlez, Claude Alfandéry, où situez-vous le coronavirus? À quel niveau par rapport à la crise politique, la crise économique, la crise sociale, la crise culturelle?
C'est tout à fait inédit, c'est très compliqué à dire parce que c'est d'abord inattendu, ensuite c'est tout à fait inédit, comme je le disais, c'est en plus tout à fait invisible, mais d'une part, on sait que c'est mortel, et puis c'est aussi toute une série de crainte, de peur non encore expliquée. Il y a énormément d'implicites enfin dans cette dans ce coronavirus. On ne sait pas ce qui va arriver, et il y a une très grande peur par l'ignorance de ce qui va arriver, ignorance du point de vue sanitaire, parce qu'après tout, on ne sait pas aujourd'hui si ce virus sera éliminé ou si on n'est pas obligé de vivre avec. Et ça s'en change beaucoup, en fait, les données de notre vie. Et puis alors, ignorance économique, parce qu'au sortir du confinement, on voit un grand trouble, un grand désordre, et la remontée sera très difficile, mais je pense qu'on en parlera tout à l'heure.
Tout à fait. Ignorance et incertitude, une chose est certaine, c'est que vous êtes bien avec nous, Claude Alfandéry. Et on retrouve notre invité, Claude Alfandéry. Claude Alfandéry, ancien résistant pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais résistant encore aujourd'hui d'une nouvelle façon, puisque vous avez lancé avec quelques femmes et quelques quelques hommes, Claude Alfandéry, vous avez annoncé, disons, le lancement il y a 2 jours maintenant, du Conseil national de la nouvelle résistance. Expliquez-nous donc, nous avons compris ce qui a présidé à l'esprit de la création de ce Conseil national de la nouvelle résistance, mais qu'est-ce que ça va être, ce Conseil national de la nouvelle résistance ?
Ah, ça va être ceux qui le lancent, mais ceux qui le rejoindront arriveront à le faire. En fait, le problème, c'est, je pense, c'est de retrouver l'esprit de solidarité de la résistance. Je disais tout à l'heure, enfin, à quel point la résistance avait éveiller cet esprit de solidarité et comment des gens qui étaient plus ou moins désunis sont arrivés à s'unir pour soutenir la résistance et notamment le grand mouvement des camps. Ben, je pense que c'est un peu la même chose qui doit se passer aujourd'hui. Enfin, nous sommes dans une situation extraordinairement difficile. Non seulement la crise, la pandémie que nous vivons actuellement et qui dont les conséquences sont non seulement sanitaires mais économiques extraordinairement douloureuses, mais toutes les crises qui se sont entremêlées depuis 30 ans et notamment tout ce qui se joue autour des problèmes du climat, des problèmes de l'empreinte écologique et des difficultés de la finitude du monde, comme le disait Daniel Cohen, et de la nécessité de trouver une autre façon de produire, parce que celle que le système dans lequel nous sommes, nous sentons bien qu'il est périmé et nous en voyons bien les résultats avec la pandémie aujourd'hui. Je voudrais dire même que on en voit tellement bien les résultats que c'est un moment à ne pas laisser passer. On voit comment la façon de produire, la gestion des services publics a été telle que nous étions totalement impréparés et que à cette pandémie et que les hôpitaux insuffisamment équipés, le personnel insuffisamment nombreux, on se demandait comment il allait résister à quelque chose qui n'avait pas été prévu, qui n'avait pas été anticipé et qui risquait de se développer de façon tout à fait exponentielle. Or, on a vu comment, par la solidarité, la pandémie a pu être contenue, elle ne s'est pas arrêtée, mais elle a été contenue. Tous les malades ont été soignés, l'éthique médicale a été préservée. Donc, je trouve que on a un exemple de ce qu'on peut faire lorsque dans un monde qui risque d'être invivable, l'esprit de solidarité renaît. Et donc, ce Conseil national, ce nouveau Conseil national de la résistance, il souhaite susciter la renaissance de cet esprit de solidarité. Mais il peut le faire d'ailleurs parce qu'il existe déjà toute une série d'actions diverses tout au long dans notre pays qui permettent de s'appuyer. C'est pas un Conseil national de la résistance qui vient comme ça avec le désir de faire du bien. Ça vient en s'appuyant sur des choses qui existent. Et ça, c'est très très important.
Pour le moment, Claude Alfandéry, 10 femmes et 10 hommes composent ce conseil, parmi les femmes et les hommes des personnalités connues, des auditeurs et des auditrices de France Culture, comme la sociologue Dominique Méda ou le philosophe Dominique Bourg, comme Pablo Servigne, l'économiste Jean-Marie Haribet, le professeur de droit Dominique Rousseau ou encore la directrice d'école Véronique Decker. Mais bien évidemment, comme vous le disiez, milliers, à l'instar de la résistance des années 40, où ils étaient des milliers puis des centaines de milliers, ben, vous espérez qu'un certain nombre de citoyens et de citoyennes rejoignent ce conseil pour y travailler. Les premiers résultats seront rendus le 27 mai, qui est la journée nationale de la résistance. C'est un très très beau jour. Qu'est-ce qui pourrait faire obstacle malgré tout à ce conseil aujourd'hui? L'apathie, l'administration, la haute fonction publique, la course au profit. À votre avis, qu'est-ce qui empêcherait ce CNNR de prendre son élan?
Bon, c'est vrai qu'il y a des adversaires, hein, il ne faut pas être angélique, il y a des gens qui veulent revenir au système actuel dans la mesure où ce système leur était hautement profitable. Donc il faut savoir résister à ceux qui ne veulent pas du bien. Je pense que il faut surtout savoir s'appuyer sur les choses existantes. Moi, je pense que l'important pour la réussite, c'est de s'appuyer complètement et d'essayer de développer tout ce qui existe déjà à travers la France d'entraide, de coopération, de solidarité. Il y a des milliers d'associations, d'entreprises sociales solidaires qui se sont développées, et c'est elles qui doivent être le noyau de ce système nouveau que nous voulons essayer de mettre en place, de cette nouvelle façon de produire. Je pense que on ne pourra pas avancer, bien sûr, pour avancer, il faut d'abord en ce moment en particulier c'est d'abord un sauvetage, un sauvetage des faillites, du chômage, de la perdition, du chaos. Et pour ce sauvetage, on a besoin d'un État qui fasse ce qu'il faut. Et puis, d'autre part, pour investir dans un autre système, il faut bien entendu aussi une bonne fiscalité, un bon code du travail, des crédits qui vont aux bonnes activités et pas aux mauvaises. Donc il y a tout ce travail qui vient de l'État, qui vient aussi de, je l'espère, qui devrait venir aussi de l'Europe. Mais derrière ce travail, il y a aussi ce qui se fait sur le terrain. Ce qui se fait sur le terrain, c'est un changement complètement de comportement. C'est au lieu de se fonder sur la concurrence, sur la seule compétition, c'est se fonder sur la coopération et la solidarité. Et ceci, c'est pas irréaliste. Ça existe un petit peu partout. Il faut simplement les aider. Les soutenir, et il faut sans doute que tout ce qui existe se converge, coopère ensemble, parce que pour le moment c'est encore beaucoup trop dispersé, disséminé, fragmenté, et dans la mesure où c'est fragmenté, ça n'a pas l'impact suffisant, ça ne fait pas système, ça ne change pas la façon de produire, de consommer, d'échanger, de gérer les affaires. Changer le système, il le faut au niveau de l'État, au niveau de l'Europe, au niveau du monde, et il le faut partout sur le terrain. Et je pense, moi, que la nouvelle résistance, c'est ça, c'est faciliter, encourager, soutenir, provoquer de nouvelles façons de produire, de consommer, de se comporter, de vivre ensemble, de savoir vivre les uns avec les autres. Et ça, bien entendu, ça nécessite l'État, mais ça nécessite, à côté de l'État, un Conseil national de la résistance qui, en quelque sorte, vérifie la capacité de la société à se transformer profondément. C'est cette fameuse métamorphose dont parle souvent Edgar Morin.